Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Pourquoi passer sa vie à deux plutôt que tout seul ? Entre 1934 et 1947, un certain nombre de films classiques de Hollywood posent cette question philosophique, même métaphysique. Un cœur pris au piège, indiscrétion, Madame porte la culotte, l'impossible Monsieur Bébé, cette sacrée vérité, tous ces films racontent l'histoire d'un couple qui se sépare au début et se retrouve à la fin. Les couples ne surmontent pas des obstacles venus de l'extérieur, comme la société, la famille, le destin ou la providence. Ils doivent au contraire surmonter l'impossibilité d'être ensemble. Ces comédies, qu'on appelle des comédies du remariage, offrent à la réflexion de nombreuses perspectives, comme l'écrit la philosophe Sandra Laugier dans un article qui s'appelle « Comment ils se sont disputés » à propos de Stanley Cavell, un autre philosophe. Être en couple, est-ce que ce ne serait pas justement surmonter la possibilité de la séparation ? Régler ou exprimer quotidiennement les conflits que génère le couple, se demander à chaque instant pourquoi il est préférable d'être à deux plutôt que à un. Et puis, poursuit Sandra Laugier, le mariage, aujourd'hui le Pax, ou l'union à deux, ou même à trois un jour, ça c'est moi qui rajoute, ont dans ces films une dimension politique. Ce sont, en un certain sens, des modèles réduits du contrat fondateur de la nation. Un mauvais mariage, c'est comme un état où les citoyens seraient malheureux. On a donc intérêt à y investir, dans l'un comme dans l'autre, des valeurs d'égalité, de justice et des rêves de toutes sortes, d'une société ou d'un mariage meilleur, plus juste, plus harmonieux, etc. Et ce que rappelle la comédie du remariage, c'est que mon consentement à la manière dont fonctionne l'État, à la politique qu'il applique, tout comme à cette vie de couple-là, ne sont pas acquis une bonne fois pour toutes. Ils sont, conclut la philosophe, constamment en dispute. Ils peuvent et doivent être remis en cause. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, c'est donc la comédie du remariage, deux histoires au XXIe siècle, racontées par Jérôme Sandelard et réalisées par Emmanuel Jouffre.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'habite ici donc depuis quelques années, donc avec mon mari et mes enfants de 9 ans et 14 ans. Tout allait bien jusqu'à il y a 6 mois dans notre petite vie, jusqu'à ce qu'il m'annonce que ça n'allait plus de son côté, qu'on s'était un peu perdu dans nos vies et qu'il était surtout pas heureux. Voilà, que cette vie-là ne lui convenait plus, qu'il n'arrivait plus à se projeter avec moi parce que il avait l'impression de s'enliser dans la situation actuelle et de ne pas voir d'avenir concret ensemble. Donc ça a été un peu un électrochoc parce que je n'ai rien vu venir. C'est vrai que j'étais assez prise par mon activité professionnelle, qui du coup me fait me déplacer beaucoup. Et en fait, lui était un peu perdu dans cette situation où il nous observait depuis 6 mois. Et du coup, il a compris que ça n'allait pas du tout dans la direction qu'il souhaitait. Donc j'ai essayé de prendre du recul et je me suis dit qu'effectivement j'avais eu des attitudes des fois un peu lointaines, j'ai probablement pas assez écouté, pas assez assisté peut-être dans les difficultés qu'il pouvait des fois rencontrer à son travail, ça m'est passé un peu au-dessus on va dire, je me suis concentrée peut-être un peu trop sur ma petite personne et voilà je le payais maintenant quoi. Donc on s'est beaucoup parlé, on a pleuré, parce que j'ai pas compris toute cette remise en cause qui impliquait que ce qu'on avait construit depuis 20 ans en gros s'écroulait. Et pourtant, voilà, on était un couple qui s'entendait bien et qui se disputait pas, mais voilà, plus d'envie. On parlait pas de rupture, mais je le sentais venir en fait. Je sentais ce danger imminent et pour moi c'était inconcevable quoi. Donc cette situation m'a abasourdie et je me suis lancée sur Internet pour essayer de trouver un peu d'aide. Et j'ai trouvé donc un site qui traitait justement des problèmes de couple, de gens qui s'étaient séparés et comment les reconquérir. Donc, je suis tombée sur le site d'Alexandre Cormon et je me suis inscrite.
Bonjour à tous et bienvenue sur mon site internet. Je suis Alexandre Cormon, votre love coach depuis 2007. Je vous accompagne dans la reconquête amoureuse et aujourd'hui, je vous réserve une série de 4 vidéos entièrement gratuites sur comment récupérer son ex. Nous verrons le plan d'action exact pour vous aider à récupérer votre ex et surtout à relancer votre histoire sur des bases saines et solides. On se retrouve de l'autre côté tout de suite, immédiatement.
Je n'avais jamais fait ça. Je vais voir si c'est sérieux, si ça va vraiment m'aider. Il y avait quelques conseils pertinents, des témoignages qui étaient assez positifs. Et j'ai commencé à recevoir en fait des fiches tous les jours avec des conseils qui disaient si vous êtes dans telle situation, peut-être que c'est dû à tel événement et comment il fallait réagir. Et puis, il y avait le numéro de portable, justement, d'Alexandre Cormon. Je me suis dit, si c'est sérieux, il va me répondre. Et donc, j'ai appelé et je suis effectivement tombée sur lui. J'ai expliqué ma situation et puis il m'a orientée, en fait, vers une séance de coaching téléphonique d'une durée d'une heure. Donc, on a échangé et il m'a plutôt rassurée en me disant, tout ce que tu me dis, pour moi, ton mari te donne toutes les clés, il va être plus heureux, donc rends-le plus heureux. travaille à ton bonheur et il n'y a pas de raison que ça marche pas, je suis confiante. Donc, il m'a donné pas mal d'attitudes à avoir, bien rester positive, de faire des projets, d'essayer d'entraîner, on va dire, dans ma spirale positive, mon mari, pour qu'il retrouve le goût d'être ensemble, le goût de faire des choses ensemble. Donc j'ai mis en application, mais malgré tout, mon mari restait campé sur sa position de dire « ça va pas, il faut qu'on change ». Ça a duré pendant un mois où on a échangé, on a essayé de faire des efforts, donc on a essayé de cacher aux enfants pour pas qu'ils se rendent compte de la situation, parce que pour moi c'était, on pouvait la sauver encore. Et puis, un moment où je lui ai fait une grosse déclaration, en me disant, il va craquer, c'est obligé. Il m'a dit, faut que je te dise, je peux pas continuer comme ça. J'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. J'ai rencontré quelqu'un, et avec elle, c'est différent. Et j'ai l'impression à nouveau de retrouver du bonheur. J'ai l'impression que je vais peut-être le trouver avec elle. Donc, il faut que j'essaie. Excuse-moi, mais il faut que j'essaie de connaître cette personne davantage et que je me lance dans cette nouvelle aventure. Je pense que c'est fait pour moi, que la nôtre, elle est terminée et qu'il faut tourner la page. Mon mari, j'ai jamais douté de lui. Il m'a toujours mis sur un piédestal, en fait. Il était toujours aux petits soins pour moi, toujours à me faire plaisir. Et puis, pour moi, j'étais l'unique, quoi. C'était impossible qu'il puisse faire une chose pareille. Et même dans notre entourage, où on a vu des fois des couples d'amis qui se sont séparés, je les regardais en disant « Oh, les pauvres, oh là là, t'as vu ce qui leur arrive ?» Mais à aucun moment, j'ai pu penser que moi je serais dedans et que ça m'arriverait, quoi. Pour moi, on était trop complices et trop proches pour qu'une chose pareille vienne dans notre vie, quoi. Je me suis dit qu'il fallait que je leur séduise. Donc j'ai joué le grand jeu en me disant il faut que j'essaie d'être encore plus coquette, que je fasse encore plus d'efforts. Donc il a senti qu'effectivement, j'essayais de faire des efforts, mais pas toujours dans le bon sens. Il me disait, mais j'ai pas envie de quelqu'un de soumis. Enfin voilà, vous voyez que j'essayais de devancer ses désirs. T'as soif, tu veux que j'aille te chercher ça? Enfin, c'était un peu trop à l'extrême. Et du coup, il m'a dit, non, mais tu comprends pas. C'est une question après de personnalité. J'ai trouvé une autre personnalité qui me plaît et progressivement, je vais m'orienter vers cette personne qui, pour moi, est une évidence. Donc, gros coup derrière la tête. Donc, je me suis dit, au secours Alexandre, le coach, viens m'aider parce que là, ça a pris une autre dimension. Et maintenant, je fais vraiment partie de la catégorie reconquérir son ex.
Vous voulez aujourd'hui récupérer votre ex. Vous vous demandez comment faire raviver ses sentiments. Aujourd'hui, vous avez tendance à vouloir miser votre reconquête en fonction des réponses de votre ex. Oui, si tu veux me récupérer, il faudra que tu me fasses ceci. Donc, vous allez agir en conséquence. Et vous avez tout faux. Ça peut paraître complètement absurde ou fou. Mais je vais vous donner un exemple. Si demain, votre ex vient vous voir
en vous disant « Pour me récupérer, il faut que tu me fasses des compliments. » Vous allez devoir réagir en conséquence en lui disant « Tu es belle, tu es beau, tu me plais, etc. » Pourtant, vous ne créez pas d'effet de surprise. Et la reconquête, c'est l'effet de surprise. En montrant un changement, vous allez réagir, vous allez reprendre le contrôle et c'est votre ex qui sera ainsi dans la surprise et qui se demandera « Waouh, mais que se passe-t-il ? Est-ce que j'ai fait la bonne action en décidant de rompre ?» Et là, vous allez retourner le contrôle de la situation.
Donc Alexandre m'a suivi, on a échangé pas mal par mail où je lui disais voilà, il m'a dit ça, qu'est-ce que je dis, j'ai fait ça et Alexandre m'a dit alors surtout tous les matins quand tu te lèves, tu penses à moi, tu souris, tu te fixes une action par jour que tu fais. Il faut que tu te reconstruises, tu relèves la tête et que tu entraînes dans ta spirale ton mari, mais pour ça, il faut que tu sois forte. Donc fais-toi une vie forte. Et donc je me suis dit waouh, dans quelle direction je pars, qu'est-ce que je fais, dans quoi je me tourne. Donc je me suis dit bon, il faut peut-être que je fasse des activités. Donc j'ai commencé à sortir un peu plus, à embarquer les enfants avec moi, voilà, qu'on fasse plus de choses, lui montrer que bah que la vie continuait et que malgré tout j'encaissais, même si je n'acceptais pas, je faisais avec. Il me parlait beaucoup aussi de cette personne, mon mari. Donc c'était délicat parce que pour moi, voilà, c'était déjà dur et il fallait en plus que j'écoute ce qu'il me racontait, sur elle, quoi. Alexandre m'avait dit, il faut surtout pas que tu donnes d'importance à cette fille, donc il faut à tout prix que tu coupes ça. Donc j'étais assez aussi curieuse de savoir ce qui se passait entre eux, savoir... Parce qu'elle avait plus que moi et voilà. Après, je sais que je suis quelqu'un d'assez possessif quand même et un peu jalouse. Et je voulais récupérer à tout prix mon mari et je voulais voir cette femme. Je savais où est-ce qu'elle habitait. Donc bah, je l'ai suivie et je l'ai attendue un matin. Et donc je lui ai dit en fait ce que je pensais de la situation. Je voulais qu'elle soit consciente de ce que ça impliquait. Je lui ai expliqué qu'on était voilà, une famille heureuse jusqu'à maintenant, qu'il fallait faire attention à ce qu'ils faisaient tous les deux parce qu'ils brisaient effectivement une famille et que c'était grave et que bah, mon mari je l'aimais et que j'allais m'accrocher. Donc voilà, elle est restée assez surprise et je suis partie. Donc voilà, ça m'a soulagée, c'était peut-être pas la bonne chose à faire parce que... dans la mesure où je donnais d'importance à cette femme, ça encourageait mon mari en fait, à aller encore plus vers elle parce qu'il la protégeait. Et quand je l'attaquais elle, finalement, par mon attitude, ça le blessait lui. Et du coup, ça faisait l'effet inverse de ce que je voulais récupérer mon mari. C'est-à-dire que du coup, il s'éloignait encore un peu plus. On a passé des jours de vacances ensemble. Et puis, c'était compliqué parce qu'il y a des jours, j'avais l'impression que je le récupérais, qu'il revenait vers moi, que ça allait bien. Et puis, le lendemain, il était carrément fermé. Mais c'était vraiment devenu quelqu'un d'autre, en fait. Je le reconnaissais plus. Et puis, après les vacances, donc, il a pris sa décision. Il m'a dit, voilà, il faut maintenant que j'avance. Donc, je vais de plus en plus aller vers cette personne. Et donc, il a pris ses affaires et il est parti. Donc les enfants ont bien sûr mal réagi, pas compris. On s'est un peu disputé, on s'est séparé un peu avec des mots forts. Et en fait, j'ai eu un tel soutien de ma famille et de mes amis que j'ai rebondi, vraiment j'ai rebondi. Donc je me suis dit, je vais me prendre en main et puis il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. De quelques jours en fait de séparation, il m'a dit voilà, on peut pas rester comme ça, il faut qu'on recommunique à nouveau pour le bien des enfants. Donc j'ai dit bon, d'accord, ok, on fixe un rendez-vous et on se retrouve. Et on s'est retrouvé donc avec mon mari pour discuter de la situation, savoir comment on allait s'organiser avec les enfants, etc. Donc je lui ai dit que ce que je ressentais pour lui. Mais que j'avais compris, que je respectais son choix et que je le laissais partir. J'étais allée jusqu'au bout de ce que je pouvais tenter. Pour moi, c'est fini. Je tire un trait sur toi, définitivement. J'arrête les efforts. Pour lui, ça a été un électrochoc. Il a mesuré en fait à quel point on comptait, moi et les enfants, dans sa vie, et à quel point ce qu'il était en train de faire était en train de tout détruire, et que c'est pas ce qu'il voulait en fait. Et il a compris qu'avec sa relation avec cette autre fille, c'était pas ce qu'il recherchait non plus. Il avait l'illusion du bonheur, mais c'était un tel changement au niveau des habitudes, au niveau du mode de vie. C'est quelqu'un qui avait aussi des enfants, donc qui était séparé. Donc il fallait se réhabituer à tout ça, à se dire je repars à zéro. Et il s'est dit, je suis avec deux sacs de voyage après 20 ans de vie avec ma femme et mes enfants. C'est tout ce que je garde de souvenirs. Je pars, je fais n'importe quoi. Et en fait, ça a été électrochoc. Et il est revenu. Donc il est revenu en pleurant, en me disant, voilà, ça fait deux jours que je ne mange plus, deux jours que je ne dors plus. C'est pas ce que je veux. Je mesure maintenant tes efforts que tu fais depuis plusieurs mois. Je comprends que tout ce que j'ai pu te dire, en fait, de mal, ou en te disant d'arrêter de te regarder le nombril, enfin, ce genre de choses, en fait, c'est des conseils que je dois m'appliquer à moi. Donc ça a été très très surprenant. J'avoue que sur le moment, j'ai pas su comment réagir. Je l'ai laissé parler. Je lui ai dit que je lui pardonnais, qu'on allait redémarrer ensemble, se reconstruire, faire plus attention, que j'avais compris de mes erreurs. Et puis bah, cette histoire m'a effectivement mis un gros coup de pied aux fesses. Donc je pense que j'ai réellement changé.
France Culture, les pieds sur terre.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue, rentrez.
La comédie du remariage, comme l'appelle le philosophe Stanley Cavell, c'est donc ça. On se sépare pour mieux se retrouver, après avoir surmonté une série d'épreuves, à la recherche d'un bonheur nouveau et de préférences différentes. L'histoire de Mathilde, que vous allez écouter maintenant, c'est la comédie du remariage, mais du point de vue de l'enfant.
J'ai grandi avec ma petite sœur qui s'appelle Margot, qui a 2 ans de moins que moi, dans un petit village en Champagne-Ardenne qui s'appelle Lanneville en Chaillois, donc entre Reims et Épernay. C'était un tout petit village où il y avait 2 rues et 42 habitants, donc tout le monde se connaissait. On était 5 enfants en tout à vivre dans ce village, entre la rivière, les vignes, il y avait une carrière de craie, il y avait ce qu'on appelait la petite forêt. Voilà. Et donc avec mes 2 parents dans une maison qu'ils avaient fait construire à la campagne. Voilà, c'était une enfance à la fois douce et à la fois compliquée, parce que moi j'entendais beaucoup déjà, même étant petite, mes parents discuter et se disputer, alors pour des histoires que je comprenais moi pas du tout à l'époque. Et puis du coup, souvent ma mère allait se coucher beaucoup plus tôt et mon père restait devant la télé assez tard, et j'entendais du coup le bruit de la télé, j'arrivais pas à dormir, c'était quelque chose d'assez pénible. Et puis ensuite sont arrivées des petites choses, des petits changements qui sans doute nous ont mis un peu la puce à l'oreille à ma sœur et moi. Un matin, en se levant, on a voulu aller se recoucher dans le lit de nos parents, comme font pas mal d'enfants, je pense. Et puis en fait, il n'y avait que mon père et ma mère étaient dans le bureau. Elle a acheté une espèce de canapé-lit qu'elle avait installé là et nous a expliqué à ce moment-là qu'elle n'avait plus envie de dormir avec papa et qu'elle voulait dormir toute seule dans son nouveau lit. Et puis après, je sais que elle avait signé un chèque bancaire devant moi et puis sa signature avait changé et elle m'avait expliqué que c'était parce que elle allait reprendre son nom de jeune fille, mais alors c'est des choses très floues pour moi que je comprenais pas du tout quoi. Je pense qu'il faisait vraiment bonne figure mais qu'au fond ça allait pas du tout et puis nous enfin Margot et moi en étant enfant, on le ressentait sans doute de manière assez importante. Donc en fait, un soir, maman est venue dans notre chambre pour nous annoncer, en nous faisant un bisou pour nous dire bonne nuit, qu'ils allaient divorcer, quoi. « après l'annonce du divorce, donc mes parents décident de vendre donc cette maison dans laquelle Margot et moi on a grandi pour aller s'installer en ville. Donc c'est très dur parce que ça veut dire quitter notre petit village, quitter les trois amis avec lesquels on était tout le temps, donc Margot et moi, pour du coup aller vers la ville, vers un endroit qu'on connaissait pas du tout et qui nous faisait un petit peu peur, quoi. Et puis c'est vraiment un moment où du coup mon père allait très mal parce qu'il ne voulait pas se séparer de ma mère. C'est elle qui a demandé le divorce, même si c'est resté un divorce à l'amiable. Je sais que c'était vraiment, oui, une période très compliquée. Donc avec ma mère, on arrive à Reims dans un petit appartement. Donc on était toutes les trois. Margot et moi, on avait chacune notre chambre. Et mon père part s'installer à Saint-Dizier, qui est une petite ville en Haute-Marne. Et donc vit dans un appartement très glauque qu'il n'avait pas du tout aménagé. Donc je me souviens qu'il y avait simplement un matelas du coup pour dormir. Nous, quand on allait le voir le week-end, c'était comme ça. Et un CD d'Henri Salvador qu'on écoutait tout le temps parce que c'était la seule chose pour se distraire. Finalement, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de jeu, il n'y avait plus de lit, il n'y avait plus de télé. C'est le moment aussi où j'ai senti que mon père était plus seulement mon père finalement, mais était aussi un homme. C'est chez lui que j'ai découvert ce qu'était un préservatif, par exemple, parce que j'en ai trouvé là, comme ça, posé sur son bureau, et je lui ai demandé ce que c'était. Donc le pauvre, il a été obligé de m'expliquer non seulement ce que c'était, mais aussi pourquoi il en avait. Donc je pense que c'est une période où, voilà, où il a rencontré des femmes. Du coup, c'était une période assez compliquée, assez froide finalement, et ma mère qui nous préservait beaucoup n'allait pas très bien non plus à ce moment-là. Je pense que tous les deux, ils faisaient le deuil d'une vie qu'ils avaient eue avant, et je sentais mon père à ce moment-là qui, donc lui vers mes 12-13 ans, qui essayait de reconquérir ma mère. Donc quand il nous ramenait le soir chez ma mère dans son appartement, il essayait, je sais pas, de se rapprocher d'elle physiquement, et puis également avec des petits mots doux, comme il l'appelait quand ils étaient ensemble. Il l'appelait ma biche, par exemple. Et ma mère était pas du tout réceptive. Elle lui disait arrête, parle pas comme ça, je veux pas t'entendre dire ça, etc. Parce qu'elle devait se dire ça va chambouler les filles, elles vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'il essaye de me reconquérir finalement. Mes parents, ils ont toujours voulu qu'on fête Noël tous les quatre, même quand ils étaient divorcés. Et j'ai le souvenir du dernier Noël, donc du moment où ils étaient séparés, donc c'était à la fin des 2 ans. Ils se faisaient des blagues, ils étaient beaucoup plus détendus l'un envers l'autre. Et puis voilà, les choses ont continué un petit peu comme ça, quelques temps, mais pas très longtemps finalement. Jusqu'au jour où je pense qu'un dimanche soir, en nous ramenant chez ma mère, il est resté dormir à la maison. Et je les ai entendus faire l'amour. Et c'était quelque chose de très très désagréable et de très choquant aussi, parce que déjà je comprenais pas du tout ce qui se passait. J'avais l'impression que c'était très violent, en fait. J'avais l'impression que mon père battait ma mère ou faisait du mal à ma mère, etc. Je n'arrivais vraiment pas du tout à dormir. Et puis le lendemain, on s'est retrouvés tous les quatre autour de la table pour prendre le petit déjeuner. Donc là, c'était... c'était vraiment très bizarre. Et puis mes parents, ils agissaient entre eux comme si ils avaient 17 ou 18 ans. Ils se faisaient des petites papouilles. Moi, ça me mettait vraiment très, très en colère. Je trouvais ça extrêmement dégoûtant. Et j'avais pas du tout envie de ça. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Et puis surtout, ensuite, tous les soirs, j'avais très, très peur d'aller me coucher parce que je voulais surtout pas réentendre ce qui s'était passé. Donc, j'insistais auprès de ma sœur pour dormir avec elle à ce moment-là. Et même, je la payais. Je lui donnais mon argent de poche pour lui dire « Margot, s'il te plaît, endors-toi après moi. Laisse-moi m'endormir la première. Comme ça, je suis sûre que je suis pas la dernière à m'endormir dans la maison et que du coup, je ne risque pas d'entendre à nouveau mes parents faire l'amour. » Voilà, et puis après les choses se sont enchaînées assez vite. Je me souviens que j'avais inventé ce mot, voilà, mes parents des divorces. Donc mes parents tous les deux ont rendu leur appartement, ont acheté un grand appartement à Reims qui était vraiment à leur goût et très beau. On était tous les quatre et c'est devenu une période assez chouette. Enfin, c'était une période finalement assez agréable, oui. et s'est écoulé 2 ans. Ils ont divorcé pendant 2 ans, mais ils se sont repaxés. Donc aujourd'hui, mes parents sont retournés s'installer à la campagne dans une très grande maison, finalement aussi grande que celle dans laquelle on était quand on était petite, dans l'Aveyron, pas très loin de Rodez, dans un tout petit lieu dit. Donc ils ont un très grand verger, un grand potager. Je pense que mon père est très heureux d'être retourné à la campagne parce que c'est quelque chose qui lui a toujours plu. Ma mère peut-être moins, et puis elle nous a beaucoup dit si c'était à refaire, jamais je serais descendue dans l'Aveyron. On a fait une connerie en achetant cette maison. Pourquoi est-ce qu'on est parti? Je ne veux même pas retourner à Reims pour voir mes copains et mes copines parce que ça va me faire trop de mal. Et que c'est vrai qu'ils passaient dans un appartement au centre-ville, d'une petite ville plutôt coquette, voilà, à une maison dans un tout petit lieu-dit où il y a 5 habitants et où tout est très compliqué quand on a une très grande maison, c'est-à-dire que quand la chaudière fonctionne, il n'y a plus d'électricité, quand il y a de l'électricité, il n'y a plus d'eau chaude, etc. Enfin, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et moi, je sentais repartir ce que j'avais vécu finalement quand j'étais petite, beaucoup de reproches, de disputes, ce qui fait que j'ai toujours un petit peu peur que ça reparte sur une mauvaise pente finalement et qu'ils se séparent à nouveau. Je me demande toujours s'ils sont heureux aujourd'hui ensemble.
C'était Les Pieds sur Terre et la comédie du remariage, une émission de Jérôme Sandelat réalisée par Emmanuel Geoffroy et diffusée pour la première fois le 26 novembre 2014. Merci à Mathilde, à Alexandre Cormon, coach, et à Sophie. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Céline Autain, c'est notre stagiaire, et c'est François Connac qui s'est occupé de cette rediffusion. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à poster des commentaires, des idées, des histoires, des suggestions, à partager nos émissions si elles vous ont intéressé. Nous avons notamment une page Facebook, une unique désormais page Facebook, et un compte Twitter et bientôt un compte Instagram qui attendront vos réactions avec impatience.